Bon, la consigne était vous parler de la symbolique nationale, donc des images mises à contribution dans la construction nationale. C'est faisable, mais c'est compliqué pour la Suisse, parce que en faisant une petite évaluation du nombre des éléments qui sont investis de valeur symbolique nationale, on obtient une liste assez longue, hein, qui vont du chalet au Cénovis en passant par Heidi, Winkelried et Federer. C'est très, très compliqué. Alors, je me suis concentré sur une figure plus malléable et en même temps plus officielle, une figure sans mauvais jeu de mots, mais je pense que le mauvais jeu de mots, je l'ai quand même fait, une figure donc bonne à tout faire, la figure d'Helvétien. Je me suis intéressé à cette figure une première fois dans un ouvrage pas du tout scientifique, un ouvrage plutôt grand public que j'ai commis avec le dessinateur Mixer et Mix, dans lequel Helvétien, vous avez ici la première édition, maintenant les éditions plus récentes, une autre mise en page, mais Helvétien reste là-dedans, hein, le deuxième dessin est le quatrième de couverture. Donc c'est Helvétien qui se fait un selfie, en fait, donc qui se auto-représente, et qui me semblait effectivement la figure la plus intéressante et en même temps la moins connue, hein, de nos images identitaires. Pourquoi la main connue? Non pas parce que nous ne la connaissons pas, nous l'avons tous dans la poche, hein, pour peu qu'on aille une pièce de 50 centimes, 2 francs ou 1 franc, on la côtoie quotidiennement, mais une image peu connue parce que, on le verra, contrairement à des autres éléments identitaires, et notamment d'autres personnages identitaires, Helvétien n'est pas accompagné d'un récit. Nous la connaissons donc pas, nous ne savons pas qui elle est. Hein. Elle est quelque chose, mais elle-même, elle n'a pas d'histoire. Alors, elle prend son nom par contre de quelque chose qui nous ramène très vite à l'histoire. Hein. Helvétie, évidemment, les Helvètes, donc le peuple élu à la position d'illustre ancêtre. Au détriment d'autres peuples qui ont habité la Suisse. On pourrait dire qu'elle est lacustre dans le 19e siècle, comptant un petit peu la palme d'illustre ancêtre, mais c'est quand même les Helvètes qui auront plus de succès. Peut-être à cause de la phrase de César dans de Bello Gallico, dans lequel il définit les Helvètes comme supérieurs aux autres Gallois pour le courage et la valeur, mais peut-être un peu plus celle du grec Posidonios, qui les définit paisibles et riches en or, ce qui correspond peut-être un peu plus à un élément identitaire d'après 1848. Néanmoins, bon, ce transfert de nom, hein, entre les Helvètes et Helvétia est évident pour tout le monde, c'est pratique, le latin est pratique pour un pays qui a 3 puis 4 langues nationales. Aujourd'hui, on en a une cinquième qui est plus importante. Bientôt, on aura Switzerland sur nos pièces de monnaie et non plus Helvétia. C'est une figure donc effectivement unificatrice. C'est une figure pas très originale, puisque ces allégories féminines des nations sont extrêmement courantes déjà avant le 19e siècle, mais surtout au milieu du 19e siècle, hein, la date clé, non seulement pour la Suisse, de 1848, les révolutions nationales qui vont investir ces figures d'une puissance symbolique importante. Alors vous en avez ici le Britannia et Columbia, mais voici, je vous présente Germania, un peu plus agressive, mais bon, le tableau est de 1914, et l'Italia Turrita, qui est aussi l'allégorie de l'Italie, mais j'ai fait une petite liste non exhaustive du tout. Hein. Nous avons une Hispania, nous avons une Svea pour la Suède, une mer Russie, une mer Danemark, une mer Norvège. Les pays scandinaves et slaves aiment bien le côté maternel de ce figure allégorique. Alors, donc contrairement, je reviens sur mon propos initial, contrairement à d'autres incarnations de l'identité nationale, toutes ces figures-là ne sont pas accompagnées par une histoire, par un récit, par une légende. Nos deux autres figures identitaires majeures qui sont Guillaume Tell et Winkelried, par ailleurs les deux imaginaires, hein, donc aussi mythiques, ont un récit, on peut l'esquisser, tout le monde peut l'esquisser, Helvétia évidemment pas. Et donc ces figures allégoriques sont toutes féminines, quasiment toutes. Il y a très peu d'exceptions et encore des exceptions qui ont des histoires un peu particulières, qui sont par exemple l'oncle Sam pour les États-Unis, qui est par ailleurs plus connu que Columbia, et John Bull, moins connu peut-être que Britannia, mais figure allégorique masculine, plutôt rare. Elles apparaissent déjà au XVIe siècle, probablement avant, mais disons au XVIe siècle, on commence à la remarquer surtout Helvétia au XVIe siècle, ils apparaissent dans les médias de l'époque. Médias de l'époque qui sont bien sûr la peinture, mais aussi un tirage un peu plus important, les frontespices des ouvrages. Ces figures allégoriques féminines d'Helvétia, donc ces Helvétia primitives, si vous passez l'expression, nous ne les reconnaissons pas vraiment. L'élément fondamental pour la reconnaissance de Helvétia, tout d'ailleurs comme celui de Guillaume Tell, hein, c'est les attributs, c'est les accessoires. Hein. Nous reconnaissons Helvétia parce qu'elle a une lance et un bouclier. Avec quelques exceptions parfois, mais en tout cas, elle doit être estampillée de la croix fédérale, et c'est difficile, évidemment, en 1642, de l'estampiller de cette manière. Nous avons donc des figures allégoriques qui vont se servir dans l'éventail très important en termes de symbolique des figures allégoriques qui remontent à l'Antiquité, bien sûr. Ici, par exemple, vous avez le frontispice de, j'essaye de ne pas me tromper, oui, de Matthäus Merian, Topographie Helvétiae, elle est à côté d'un guerrier, elle est coiffée d'une couronne, et surtout d'un corne d'abondance, symbole de prospérité. Ce corne d'abondance, c'est un peu typique des Helvétia primitives. Il n'y a évidemment pas de croix fédérale. Elle est remplacée par une série d'emblèmes qui sont les emblèmes des 13 cantons qui composaient, disons, l'alliance de l'époque. 40 ans pour plus tard, un peintre strasbourgeois, Albrecht, je pense que ça s'appelle Cove, je sais pas, enfin, vous l'avez là, mon accent dans toute langue autre que l'italien est très mauvais. Il réside à Berne à ce moment-là, il va composer une allégorie de la Suisse, c'est le titre du tableau, dans lequel il va opposer une Helvétia moderne à une Helvétia antique, ancienne, qui est absente par ailleurs, et on retrouve des éléments de l'ordre de l'abondance hein, à côté dans la table sur laquelle se tient cette Helvétia qui est habillée en habit de l'époque. Donc il n'y a pas ce côté antiquisant fait partie de l'actuelle idée que nous faisons d'Helvétia. On arrive même à des compositions qui nous paraissent étonnantes de l'ordre des attributs, hein, comme dans cette gravure qui est toujours un frontispice d'un ouvrage de Johann Heinrich Wirth, 1758, dans lequel Helvétia, qui est dans ce cas-là une Helvétia littéraire, est ornée et on lui attribue une paire d'ailes qu'on entrevoit derrière elle. Un frontispice qui est plus intéressant et qui annonce déjà la constitution d'une figure plus standard d'Helvetia, telle qu'elle pourra être investie par la Confédération 120 ans plus tard, et celui-ci, qui vient de l'ouvrage L'État et les délices de la Suisse, qui compose l'ouvrage illustré, dans lequel vous voyez l'Helvetia au centre, vous l'apercevez ici, je ne sais pas si on voit la flèche, oui. Vous l'apercevez ici, et vous voyez ici, on a déjà un bouclier, qui est un élément pas toujours présent, mais qui est actuellement standardisé dans la figure d'Helvetia. Elle n'est pas la seule. Britannia ou Germania ont souvent un bouclier, mais il est très présent et très investi dans la variante suisse. Il est très souvent orné de la croix fédérale et il met en avant cet élément protectif défenseur de la figure d'Helvetia et peut-être l'élément le plus important. La lance est parfois interchangeable avec l'épée, mais c'est un élément important. Un élément important aussi, il est là. C'est une lance avec un chapeau dessus. Une image que nous retrouvons dans un dernier frontispice que j'aimerais vous montrer, qui est celui-ci, 1758, une trentaine d'années plus tard, dans lequel cette fois la fameuse lance avec le chapeau dessous est tenue par Helvetia elle-même, qui a toujours le bouclier, vous le voyez ici. On s'approche de plus en plus d'une figure connue, enfin d'une figure reconnaissable, à l'exception de ce chapeau sur la lance qui mérite quelques explications, surtout qu'il y a une sorte de dissonance avec un autre chapeau, pas sur une lance, mais sur un pieu, qui fait partie de l'imaginaire identitaire suisse, une histoire bien connue. Je suis désolé, je vous mets une illustration du livre que j'ai cité tout à l'heure, L'image de la Suisse, mais comme je l'ai inséré pendant que Cédric parlait et que je n'ai que la version en russe dans mon voilà, je vais vous la traduire, je ne parle pas le russe mais je connais la glague, donc c'est papa, t'es sûr de ne pas vouloir dire bonjour au chapeau, et donc il s'agit bien sûr de Tell et son fils, et le chapeau donc sur la lance qui est ici dans l'histoire de Tell, symbole de la tyrannie, et en réalité, dans la figure d'Helvetia, dans les premières figures d'Helvetia, symbole de la liberté. Cette contradiction symbolique vient d'un imaginaire romain où la figure de Libertas était armée d'une lance. Elle ressemble d'ailleurs à notre figure d'Helvetia, évidemment. On s'est beaucoup inspiré de ces deux pièces de monnaie romaines, les deux avec la figure de Libertas, on aurait pu sortir beaucoup plus. Vous voyez bien qu'elle a la lance et dans l'autre main, il tient un petit bonnet, qui est un bonnet phrygien qui était offert aux esclaves libérés, et donc symbole de la liberté, et la lance étant présente pour généralement rappeler que la liberté s'obtient en combattant, s'obtient en luttant. Liberté, lutte, lance et chapeau, c'est quelque chose d'ailleurs qui a été largement réemployé par les révolutions du 18e, de la fin du 18e siècle, du 18e, de la fin du 18e siècle, pardon, donc notamment la révolution américaine et la révolution française. La révolution américaine a donné, par exemple, cette image de la lance et du chapeau, a transmis cette image-là, qu'il utilisait déjà en 1775, aux armoiries de l'armée américaine, dont vous voyez ici une reproduction. Vous voyez le chapeau et celle-ci, on ne voit pas, c'est une lance. Et très à la mode pour toutes les révolutions américaines et sud-américaines. Elle est présente dans les armoiries de l'Argentine, de la Colombie, vous le voyez, c'est ici, du Salvador, là, du Nicaragua, là. Donc cette symbolique-là était aussi présente, vous l'avez vu, hein, dans une symbolique très primitive de Madame Helvetia et plus tard dans une symbolique très, très appuyée des allégories féminines liées à la Révolution française, des allégories, disons, pré-mariannes. Hein. Ici, vous avez des allégories de la République et de la Liberté, et dans les deux cas, le bonnet phrygien, que Marianne va hériter, mais qu'elle va coiffer, est présenté sur une lance. Je le retrouve dans mon texte. Donc, on a vu la figure d'Helvetia précède largement la Constitution fédérale de 1848, même si elle ne correspond pas encore à l'image que nous nous en faisons aujourd'hui. À 1848, la première apparition officielle de Marianne est sur une pièce de monnaie. Alors, il faut savoir qu'avant 1848, circule en Suisse à peu près 860 monnaies différentes, hein, beaucoup produites à l'étranger, mais qui ont cours en Suisse, ce qui représente à peu près 8000 pièces différentes. Hein. Donc, en termes identitaires, c'est compliqué de cibler des visuels. Et donc, lorsque les premières monnaies fédérales vont s'imposer, c'est une occasion importante pour marquer une image unique, une image porteuse, et cette image, est l'image qui est choisie, est l'image proposée par Antoine Bovy, qui est un Genevois naturalisé français qui travaille à Paris et qui par ailleurs propose aussi des monnaies à la République française en les adaptant lorsque la République en question devient empire symboliquement. Donc c'est quelqu'un qui manie assez bien les éléments symboliques, hein, comme il se doit. Cette pièce, qui date donc de 1850, nous montre une figure d'Helvetia assise, où on retrouve le bouclier, mais on n'a pas de lance. Elle est assise sur une charrue, hein, élément symbolique, qui renvoie un petit peu au camp d'abondance, c'est-à-dire le travail et la nourriture. L'Helvetia est nourricière, une figure qui va périodiquement réapparaître, hein, y compris pendant les périodes de guerre, notamment, hein, de l'Helvetia nourricière. Dans les cartes postales, vous avez toute une série d'Helvetia qui distribuent du pain aux enfants, qui font ce genre d'opération. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On va s'arrêter avant. D'ailleurs, j'ai combien de temps encore ?
5 minutes.
5 minutes, j'en prendrai 10. Voilà. Oui.
Elle montre quoi ?
Et on ne sait pas, c'est hors cadre.
Ah, mais c'est intéressant ça.
Ah ouais, mais ça, il faut demander à Bovy. Il monte la direction, il monte la voix. Alors, on n'a pas le temps, mais juste, je vous fais un petit. Après, je me trouverai plus dans mes notes. Mais l'Helvetia montre souvent. J'anticipe pas trop, je montre des images que je ne voulais pas vous montrer, mais lorsque voilà, vous avez des images comme ça, hein, des cartes postales de 14-18, elles montrent avec le bouclier parfois, voilà, elles montrent. Elle montre. Et c'est une représentation extrêmement commune. Hein. C'est effectivement quelqu'un qui va montrer la direction à suivre, en fait. C'est une. Alors. Donc, on en était à la pièce de monnaie, puis suivie par le timbre de 58, dont nous avons déjà un peu parlé avec Cédric. Dessin réalisé cette fois par un Allemand, Frédéric Vogt. Qui est un médailleur à la cour de Bavière. On lui ajoute cette fois une lance que vous ne voyez pas dans cet exemplaire parce qu'il est timbré. C'est un timbre assez connu, assez rare, hein, qu'on appelle Struberli à cause de la couronne qu'elle coiffe, qu'on dirait des cheveux ébouriffés. Donc peut-être c'est à cause de ses cheveux ébouriffés qu'on va la modifier à plusieurs reprises entre 62 et 81 et la mettre de profil grâce à une retouche qui a été faite par un autre Allemand qui est Ries de Munich, qui répond l'image de Voice et qui la transporte. Donc beaucoup d'Allemands, de Français dans cette construction identitaire de la Suisse, construction identitaire qui poursuit évidemment non seulement dans cet élément très officiel qui sont la monnaie et les timbres, hein, c'est les premières manifestations d'officialité de la nouvelle confédération, mais aussi par un autre important élément d'officialité qui est le palais fédéral, où la figure de Helvetia trône au milieu du pouvoir législatif et du pouvoir blanc, judiciaire. Oui, alors oui, j'ai remarqué aussi les deux caméras. Effectivement. Helvetia watching you. Donc, elle apparaît aussi dans plusieurs cantons, ici Genève et Neuchâtel, pour marquer l'entrée commémorer l'entrée du canton en question. Cette fois, donc, on a deux figures allégoriques, celle du canton et celle de la Confédération. Elle apparaît dans beaucoup des écus frappés à l'occasion des fêtes de tir fédérales et autres grands moments de cohésion nationale. Et elle apparaît aussi dans une série de statuifications liées à des grandes entreprises nationales, accompagnées dans ce cas-là par la figure allégorique du commerce, le dieu du commerce, qui est Mercure, hein, la petite statuette dorée. Donc la société, bien sûr, d'assurance Helvetia va orner son bâtiment en 1878 par une figure de Helvetia avec Mercure. Le bâtiment n'existe plus. Et la société de banque suisse va demander à Richard Kissling, hein, donc le sculpteur du Tel d'Altdorf, cette statue qui elle a été sauvée avant la démolition du bâtiment et qui trône maintenant devant le siège de l'UBS, cette fois, donc, de Zurich. Donc, de manière générale, bon, je vous montre au passage d'autres statuifications d'Helvetia, mais qui sont plus récentes. Mais voilà, c'est celle de Bâle, hein, faite dans les années 80 par Bettina Eichin, et qui est évidemment un discours déjà plus ironique, plus complexe, mais ça nous concerne pas vraiment, c'est juste un clin d'œil. Donc, plus généralement, les marques, le milieu économique va sauter sur l'occasion de cette image bonne à tout faire, de cette image en même temps extrêmement riche de valeurs identitaires, en la préférant parfois à la fameuse arbalète qui plus tard va être définie comme label de qualité suisse. Ce que vous voyez là, hein, ce bleu Helvetia, c'est en fait un blanchisson, c'est presque rigolo, hein, donc Helvetia lave plus blanc. qui donc sont des pastilles de bleu intense qu'on ajoute à la lessive pour avoir du linge très blanc, et vous voyez bien que l'image est celle de l'Helvetia d'Antoine Bovy, hein, donc celle de la pièce de monnaie, et que les pastilles en question ont la forme d'une pièce de monnaie. Mais bon, vous avez beaucoup de marques aussi qui prennent le nom d'Helvetia. Helvetia, la machine à coudre, et qui fête en 45 avec cette affiche son anniversaire, et qui reprend le timbre dessiné par les platainiers en remplaçant, hein, l'écu par une machine à coudre. Mais les marques qui vont servir d'Helvetia sont nombreuses et prennent beaucoup de... ça, c'est par exemple, c'est du ruban de machine à écrire. Hein. C'est une boîte métallique. Et on en trouve énormément. Là, j'ai vraiment pris quelques exemples, mais vous en avez beaucoup. Et jusqu'à récemment, avec la moins suisse de toutes les voitures, je ne sais pas si qui est Skoda. Quoique, hein, il faut quand même se rappeler que les chars suisses pendant la mobilisation étaient des chars Skoda, mais qui montrent cette Helvetia amoureuse d'une Skoda. J'essaye de faire vite parce que je pense que j'ai épuisé mon temps.
J'avais dit que tu prendrais 5 minutes de plus.
D'accord.
5 minutes de plus.
D'accord, parfait. Alors, je saute une petite partie. Désolé pour la cohérence qui sera peut-être moins, mais on pourra revenir sur la discussion. Je saute les pièces de monnaie ancienne actuelles parce que vous les connaissez. Simplement, je voulais juste dire qu'ils marquent une posture d'Helvetia qui va être aussi très reconnaissable et très utilisée. Et pour au contraire, hein, au-delà de cette posture très reconnaissable, lorsque les attributs le sont moins, on est très vite confondu en termes de représentation. Un exemple intéressant me semble la statue de Courbet, hein, la seule statue jamais faite par Courbet, qui a été offerte à la commune de la Chaux-de-Fonds au moment du séjour de Courbet à la Chaux-de-Fonds lorsqu'il s'y était réfugié, disons.
Il y est toujours,
oui. Il est sur une fontaine. J'essaye de trouver mes notes parce que, comme j'ai sauté, hein, Gustave Courbet, voilà. Donc, il a été offert en 1875 et qui montre bien ce séjour, ce va-et-vient symbolique. Ça, c'est à peu près la statue telle que Courbet l'avait proposée à la commune. Hein, donc, vous voyez, avec une broche avec la croix fédérale et un chapeau phrygien qui à ce moment-là est déjà pris, hein, parce que Marianne est déjà bien connue comme figure, et le socle, on ne le voit pas entièrement, sur le socle était marqué Helvetia. C'est la statue originale dont une copie a été retrouvée récemment. La statue telle qu'on la connaît maintenant, elle a été modifiée sous demande de la commune de la Tour de Paix, qui, troublée par la présence de symbologies discordantes, hein, le chapeau phrygien et le terme d'Helvetia et la croix fédérale, demande à Courbet de remplacer la croix fédérale par une étoile et de remplacer Helvetia par Libertas. Donc une Helvetia qui devient Libertas, qui est par ailleurs l'élément dont on le sait, hein, qui l'a inspiré. Par ailleurs, en France, on en a trouvé encore un exemplaire. Hein. Il a tiré un peu à la chaîne une symbologique qui est considérée comme étant plutôt maçonnique, avec une étoile cette fois à 6 branches. Mais ces confusions symboliques autour de la figure d'Helvetia, et qui sont très révélatrices du fait que la figure est à la fois reconnaissable, mais en même temps encore relativement souple, se manifeste dans une forme de statue que nous connaissons beaucoup moins maintenant, et qui sont les statues provisoires liées à des manifestations, comme très souvent le tir fédéral. On fait des statues en plâtre qui sont démontées par la suite et qui servent simplement à accompagner la manifestation, et qui ne sont pas petites. Hein. Ici, la statue du tir fédéral de Lausanne, qui a été réalisée étonnamment par Eugène Grasset. Je ne sais pas si vous voyez qui est Eugène Grasset. C'est un dessinateur lausannois, mais qui travaille lui aussi à Paris et qui fait des affiches publicitaires. Hein. C'est un des maîtres de l'affiche publicitaire parisienne, et je ne savais pas du tout qu'il faisait de temps en temps autre chose. Alors là, nous avons une figure avec plusieurs lances, hein, on dirait presque du Winkelried. Winkelried, étonnamment, quand il est représenté non pas in action, hein, non pas en se jetant sous les lances, il a avec lui 4 ou 5 lances, comme s'il les avait gardées. Voilà, c'est souvent... voilà, c'est ça. Et donc, il y a là un élément un peu Winkelried-esque. De ces lances, on a toujours l'indication de la direction. Et ce qui est intéressant, c'est que le chronicle du journal de Genève, 19 juillet 1876, il parle d'elle comme étant une Libertas. Il ne reconnaît pas, hein, l'Helvetia, qui pourtant est à l'origine de Grasset. Un autre exemple, toujours lié au tir fédéral et à ses statuts provisoires, est celle du sculpteur tessinois Vincenzo Vela, qui avait proposé, 30 ans plus tôt du tir fédéral de Lugano, hein, qui est en 1883, avait proposé la statue que vous voyez sur fond noir. C'est une maquette, c'est pas la vraie statue. La vraie statue n'a jamais existé. Il avait proposé cette statue pour orner le palais fédéral. Même si Vincenzo Vela a demandé seulement à être remboursé des frais, mais qui n'était pas... Bon, le gouvernement fédéral avait refusé. Il ressortira son projet. Donc voilà, la statue proposée au palais fédéral est une statue de Libertas. Hein, nous voyons le petit chapeau au sommet du donc est présenté comme tel hein, dans l'échange épistolaire, on la présente comme une statue de Libertas. Alors pour le tir fédéral de Lugano, Vincenzo Vella va proposer pratiquement la même statue, mais cette fois c'est une Helvetia et le petit chapeau a disparu. Donc effectivement, il suffit de jouer avec très peu de choses pour changer de symbolique. Symbolique qui s'est fixée très rapidement autour de la pièce de monnaie, hein, qui est reprise dans plein de situations différentes, y compris des costumes. Vous voyez ici, reproduite vers 1900, hein, là, et même dans des représentations récentes, hein, ici une publicité pour Windows, on retrouve la posture de notre Helvetia, personnifications qui sont très courantes au XIXe siècle, hein, dans des défilés de personnification d'Helvetia, mais qui sont aussi courantes au XXIe siècle, enfin courantes, moins courantes, plus rigolotes. Ici, notre Miss Suisse participant au concours de Miss Univers qui s'est présentée habillée en Helvetia, tout de rouge vêtu. Voilà, ce que je voulais juste dire, c'est que, voilà, pour finir, j'espère vous avoir montré comment cette figure identitaire est au fond très malléable, très facile à injecter de plein de valeurs différentes. Elle est au fond au service de tout le monde, hein, que ce soit le commerce, que ce soit différents partis politiques. Je vous ai zappé toute la partie d'utilisation politique dans la caricature, jusqu'à récemment dans la fiche politique. C'est véritablement une figure bonne à tout faire, comme on l'avait annoncé au départ. Merci.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Cédric Humer et à Gianni Aver pour leur communication. Donc, s'ouvre maintenant le temps des questions, de la discussion, des éventuels besoins d'éclaircissement dont vous pourriez avoir besoin. Christophe Calame.
Merci pour ces deux conférences qui recentrent bien ce problème. Mais il m'apparaît assez nettement que, en fait, Helvetia, c'est Athéna. C'est l'Athéna des Athéniens au sommet de la colline de l'Acropole, Promachos, avec sa lance et son bouclier. La filiation se fait par les sesterces impériales, mais quand Liberté doit être représentée, elle est représentée par la déesse Athéna. En fait, cette généalogie m'est apparue à partir de la représentation de l'art antique, mais c'est curieux, je n'avais jamais entendu parler autrement qu'en fait, il y ait une filiation avec une divinité importante du paganisme qui symbolisait justement la liberté athénienne. L'autre élément, alors qui me paraît très décisif, on a dit qu'est-ce qu'elle montre ? Ben, elle montre la frontière. Ça, c'est très très clair. Il y a toujours un appel, en fait, à garder la frontière. La plupart des grandes mobilisations suisses se sont faites pour garder la frontière. Moi, j'ai encore participé à des exercices militaires très importants au niveau du régiment pour prendre la frontière en charge. Et j'ai dû faire le douanier pendant 15 jours. C'était d'ailleurs assez drôle. Mais avec instruction des douaniers, etc., comment on doit faire pour prendre la frontière ? Donc l'élément du service de la frontière est extrêmement important dans la mémoire de nos pères, comme dirait Clint Eastwood, c'est-à-dire dans la mobilisation suisse, ils ont été sur les frontières, beaucoup plus que dans le réduit, où ils allaient en fait se reposer. Essentiellement, le service suisse, c'est un service sur la frontière. Et ce qu'elle monte, c'est la frontière. Donc c'est aussi intéressant comme geste national. Un État monte ses frontières.
Je pense, effectivement, je vous montre des réfigurations de l'Helvetia de la mob de 14-18, hein, où effectivement la frontière est thématisée et effectivement elle montre non seulement la frontière, mais l'horreur de la guerre avec d'autres figures allégoriques qui sont moins sympathiques, disons. Et pareil dans cette représentation, hein, où la frontière est effectivement non seulement montrée et défendue par Helvetia. Mais je pense que dans la pièce de Bovy, elle monte, c'est plus vague. C'est Bovy, un Parisien, et il propose effectivement une figure de figure qui guide, qui va guider, qui montre, voilà. Je pense, mais après, il faudrait effectivement... mais alors, Athéna, absolument, c'est clair. C'est de là que toute cette filiation se met en place, bien sûr. Et au XIXe siècle, c'est des figures qui sont complètement... qui fascinent, qui sont complètement...
Merci beaucoup. Une question peut-être pour connecter aussi les deux sujets qu'on a vus ce matin, finalement, c'est... alors on a vu des images qui opposaient une certaine idée de la Suisse ou qui rejetaient, par exemple, l'élément jésuitique ou des choses comme ça. Est-ce qu'on a là une production iconographique alternative, par exemple, du côté des conservateurs ? Parce que, en fait, dans les présentations qu'on a vues ce matin, moi, j'avais l'impression que le nationalisme, c'était le fait des radicaux, des libéraux. Mais il y a aussi une forme de nationalisme conservateur, peut-être. Ou est-ce qu'il est inexistant et du coup, il n'y a pas de production iconographique alternative ? Est-ce que c'est un lieu où il n'y a pas de bataille, finalement ?
Je dirais que l'iconographie du côté conservateur se réfère au canton, pratiquement de manière systématique. J'ai pas connaissance d'une iconographie qui montrerait le Sonderbund, par exemple. Maintenant, moi, je suis pas un spécialiste du tout. Peut-être qu'il y a eu, durant la période chaude, ce type d'iconographie. Deuxième chose, la production d'images durant cette période est relativement limitée. Notamment les vecteurs qui permettent de diffuser l'image sont beaucoup moindres qu'actuellement. Donc là peut-être Gianni, tu peux répondre sur le point de vue du contenu des images. Habituellement, justement, les conservateurs se réfèrent au canton et très peu à la Suisse dans son ensemble. Mais il y a probablement des images qui développent une image plus conservatrice de la Suisse.
Oui, je connais mal. Hein. Enfin, je peux dire que pour Helvetia, c'est une figure unificatrice. Donc tout le monde s'y reconnaît, quitte à la nourrir de valeurs qui leur sont propres. Hein. Donc, après, bon... J'ai tendance à faire la boutade que les conservateurs n'aiment pas les images, mais c'est une boutade.
Il n'y a pas eu un taux d'élaboration. Si on prend la guerre de sécession américaine, en fait, c'est Hollywood qui va donner aux soldats perdus du général Grant une espèce de légende dorée de ces soldats qui ensuite deviennent des John Wayne de l'Ouest avec la prisonnière du désert où on voit un polychromatisme de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'élaboration de la guerre civile est faite d'abord par les vainqueurs et puis elle est lente. Elle ne peut pas en fait sortir rapidement. Et comme le Sonderbund a été un élément foudroyant grâce au général Dufour, hein, c'est 3 mois de campagne. La représentation par Ramu du Sonderbund, c'est des chansons à voir. Ils ont été vidés des canons de Fribourg, enfin des canons de bas, et ils ont souvent absolument, ils n'ont pas tiré un seul coup de canon dans le siège de Fribourg. Fribourg s'est rendu son combat. Donc je pense qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, une sorte d'aspect fulgurant dans l'événement qui découpe l'image.
Je peux donner peut-être 3 éléments conservateurs au niveau pictural, images populaires. La première, c'est Saint-Nicolas de Flux, dont on va fêter les 600 ans d'anniversaire l'année prochaine. Donc Saint-Nicolas de Flux est très important, surtout dans les cantons conservateurs. Il y a Guillaume Tell, bien sûr, qui est une image plutôt paternelle, Vaterland. Et puis il y a le lion de Lucerne, qui est une image très conservatrice au niveau suisse. Donc je pense que c'est les 3 grandes images des cantons du Sonderbund.
Mais par exemple, Guillaume Tell est utilisé par tout le monde. C'est la même chose qu'Helvetia. Chacun se l'approprie et développe des discours autour de Guillaume Tell. Le lion, effectivement, mais c'est plus tardif. Disons, le lion, sauf erreur, est construit en...
Pour le centième, hein, ouais.
1815.
Le lion de Lucerne.
Alors, il apparaît sur la caricature que je vous ai projetée, quand on voit le moine qui s'affronte avec, le canton d'Argovie après la fermeture des monastères. Il est là comme une figure qui essaye désespérément de réconcilier les deux parties. Mais là, de nouveau, est-ce qu'il est vraiment une figure conservatrice? Je ne suis pas sûr.
Bon, on peut signaler que Saint Nicolas de Flux, maintenant, c'est le patron de la paix mondiale. C'est non seulement le patron pour les catholiques de la Suisse, donc le saint patron intercesseur de la Suisse, mais c'est aussi pour l'Église catholique universelle le saint patron de la paix mondiale. Donc il y a un rôle même, je dirais, dans le cadre mondial de la paix. Et le 600e anniversaire l'année prochaine, il y a plus de 100 manifestations dans toute la Suisse, spécialement du Sonderbund, les cantons catholiques. Il y a une centaine de manifestations qui vont commencer à Saint-Maurice au mois de novembre, donc 2016-2017.
Alors, il me semble, sur l'iconographie conservatrice, il me semble que dans le livre d'Oliver Zimmer, il y a des choses. Parce que ce qu'on observe à partir de 1848, c'est que tout l'imaginaire des montagnes qui est rattaché au Waldstätten est repoussé d'une certaine manière par les cantons du plateau. Et l'exemple le plus intéressant, c'est celui des lacustres. C'est-à-dire que, ça c'est Marc-Antoine Kayser qui l'a bien montré, à partir des années 1850, on redécouvre quelques pieux dans les lacs du plateau et tout à coup, les radicaux découvrent des ancêtres à la Suisse qui ne sont pas les ancêtres Waldstätten qui étaient sur la prairie du Grütli ou je ne sais pas où. Donc ce sont des ancêtres qui représenteraient la Suisse avec les valeurs suisses, mais sur le plateau, lac de Neuchâtel, lac de Zurich, etc. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que les découvertes archéologiques datent de cette époque et tout à coup il y a une captation nationaliste de cet imaginaire lacustre. Ce que Kayser montre aussi, c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, tout à coup on représente des reconstructions, des recréations des habitats lacustres, des lacs de montagne. Donc là, il y a un mélange complètement faux archéologiquement. Tout à coup, on voit, je ne sais pas, le lac de Chinon avec des installations lacustres pour reprendre alors là, un imaginaire unificateur. C'est-à-dire que tous les ancêtres de la Suisse représenteraient la même image, c'est-à-dire à la fois les Waldstätten, les Divico et les Helvètes et les lacustres. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais il faudrait aller regarder chez Zimmer, parce qu'il montre bien les luttes autour, à la fois de l'image et bien sûr des héritages, dans les années qui suivent 1848. J'avais peut-être aussi une petite intervention et question à Cédric Humer, c'est que cette construction nationale suisse, elle a un élément très intéressant, c'est qu'elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle a toujours été tenue en échec par toute une série d'éléments massifs, notamment la présence des cantons, la division linguistique, culturelle, etc. Et que de ce fait-là, à mon sens, on voit mieux l'étayage de la construction d'une nation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour prendre une image, les échafaudages sont toujours restés dans la construction nationale suisse. Et encore aujourd'hui, on le voit, on a tout à coup des discours qui ont l'impression de devoir créer la nation à nouveau. Alors que dans d'autres cadres nationaux, les récits ont été appris et récités par cœur maintenant, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la Suisse. Moi, je me souviens il y a 2 ou 3 ans de l'exemple d'une exposition internationale aux États-Unis où le dit pacte de 1291 était parti. L'UDC suisse alémanique avait sauté au plafond en disant « comment ça, on laisse partir l'acte fondateur de la Suisse ». Et toute une série de personnes, notamment en Suisse francophone, avaient dit « on n'a strictement rien à faire de ce pacte, qui de toute façon est un faux, qui a été fait plus tard, etc. » Et même au sein de l'UDC, il y avait eu des débats où les UDC romans disaient « mais pour nous c'est rien, enfin, le pacte de 1291 ne représente strictement pas la Suisse. »
Par rapport à votre affirmation qu'elle ne fonctionne pas, je serais plus prudent, je trouve finalement... Au contraire, on a tellement, dirais, de différences et finalement la Suisse est toujours là. Donc dans quelle mesure l'identité nationale a joué un rôle? Il y a aussi évidemment toute une série d'autres dimensions. Mais moi je pense que cette identité nationale a finalement relativement bien fonctionné. même si elle est, comme partout, mise en, en question, même si les ficelles sont peut-être un peu plus grosses qu'ailleurs, mais voilà, je serais plus prudent.
Jenny, une réaction aussi sur ce
propos ? Oui, moi je suis assez d'accord sur... je suis un peu d'accord avec les deux choses. Je pense que l'identité nationale se base aussi sur la différence. C'est-à-dire, c'est pas faux ce que tu dis, mais ça participe à la construction de l'identité nationale. Elle est construite non pas sur une unification, mais sur une différence, avec des éléments communs de reconnaissance mutuelle. Et donc, effectivement, c'est une recette qui marche plutôt bien. Je pense qu'effectivement, elle a fait ses preuves beaucoup mieux qu'ailleurs, qu'en Belgique, qu'en Italie. C'est des constructions nationales qui datent de la même période. Et pourtant, il y a les premières fissures qui arrivent. Justement, pays, au contraire, qui ont eu une logique de centralisation, d'unification linguistique, religieuse.
Et je dirais que dans la période de la montée des empires, la création de l'Allemagne, de l'Italie, il y a des forces centripètes extrêmement fortes auxquelles la Suisse a quand même résisté. Et de ce point de vue, ouais, je crois quand même qu'il y a un bon fonctionnement.
Oui.
C'est un peu en marge, mais qui est très précise sur la monnaie, en fait, en Suisse. Du coup, j'ai regardé les pièces comme on nous a conseillé. Et juste sur les centimes, enfin sur les pièces où on n'a pas la figure Helvetia, mais on n'a que la tête, c'est bien Helvetia quand même ou pas? Puisque c'est écrit Libertas.
C'est Libertas, oui. C'est effectivement une figure de Libertas.
C'est donc une figure de Libertas. Ouais. Donc on a une monnaie qui est mélangée entre les figures d'Helvetia et les figures de Libertas.
Mais parce que la figure de Libertas a été importante pour tous les mouvements d'unification nationale du milieu du 19e siècle. Donc elle est aussi là. Je vais vous apprendre quelque chose encore plus terrible. Hein. Dans les 5 francs, c'est pas Guillaume Tell. C'est un paysan du plateau la confusion.
J'ai une question sous forme de remarque par rapport à la corne d'abondance. Donc Helvetia, on associe, ou Libertas, on associe une corne d'abondance. Est-ce que vous êtes conscient que dans les vieilles langues indo-européennes, ce mot Helvetia existe même en anglais sous forme de L, ou en suédois, Helvet signifie l'enfer, donc un pays très dur à vivre. Et justement, les Helvètes vivaient un pays très dur à vivre, un enfer pour les autres pays européens, à tel point que les Helvètes avaient brûlé toute leur ville pour partir en France, et Jules César les a arrêtés à Bribrac. Est-ce que vous êtes conscient de cette notion d'enfer associée à Dame Helvetia par rapport à ses vieilles racines, Helvetendas? C'est même un double enfer, en fait, Helvet.
Mm-hmm. Moi non. Effectivement, je vois bien que Hell, ça veut dire enfer dans les langues saxonnes, mais effectivement, est-ce que lorsque César parle des Helvètes. Mais en latin, on dit ça infernum. Est-ce que c'est une consonance, je ne sais pas. En tout cas, je ne me suis pas intéressé à cette filiation. Chercher les.
Je ne sais pas. Alors, Patrick. Alors, une question à Cédric Humer. Merci pour ce bel exposé qui, évidemment, situe ce que Hobsbawm appelle les aspects du proto-nationalisme. Et puis, évidemment, la date de 1848 est toujours la date charnière à la construction nationale. Mais moi, je retiens une chose quand même de ce que vous avez présenté. À un moment donné, vous avez dit la situation de crise économique présentait une situation où l'initiative privée ne pouvait plus rien faire contre la concurrence. Et donc, il y avait vraiment une volonté politique ou économique de régulation nationale. Alors, ça a participé de la décision de créer un système douanier, une unification de la monnaie et des transports, etc. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas justement aussi le retour de cette initiative privée qui vient fragiliser ce moment d'unité nationale? Parce qu'on retrouve une situation où, voilà, il y a, je ne sais pas alors, est-ce que ce n'est pas ça qui vient fragiliser la dimension politique de la nation?
Question difficile. Je dirais qu'évidemment, la puissance des multinationales de nos jours réduit fortement la capacité des États-nations à intervenir, à diriger un minimum l'économie. Je pense que évidemment, c'est cette question de la montée en puissance du néolibéralisme et le fait que maintenant on a des unités qui sont implantées dans toute une série d'États-nations joue un rôle assez fort dans la diminution du potentiel politique des États-nations. Donc voilà, je peux difficilement aller plus loin dans cette réflexion. L'exemple pour moi le plus marquant actuellement dans l'actualité, c'est cette négociation entre l'Europe et les États-Unis pour arriver à un accord de libre-échange. Et dans cet accord, il y a la possibilité pour les multinationales d'attaquer les États-nations. Donc s'ils estiment que l'État-nation porte préjudice à leurs intérêts, ils ont la possibilité d'attaquer les États-nations en justice. Et évidemment, ça c'est inimaginable dans un contexte du 19e siècle.
Peut-être juste une question qui n'est pas tout à fait la même, mais un peu dans le même ordre d'idée. 1848, dans l'imaginaire... Oui, d'une mémoire, disons, partagée, c'est un peu un printemps des peuples, donc c'est un peu, en tout cas, 1848 en France, il y a cette image-là. Ce que tu montres, c'est, en tout cas dans le récit que tu en donnes, c'est au fond, c'est que c'est vraiment une construction des élites, le projet national. Au fond, les élites ont un intérêt économique urgent, qui passe par la construction d'un État national qui permet de se protéger, comme ça a été dit, enfin tu l'as dit et rappelé par Patrick, se protéger contre la concurrence, disons, trop puissante des grandes compagnies étrangères, en particulier anglaises. Donc en Suisse, le peuple, le prolétariat, le petit peuple est complètement absent de cette scène de la construction de l'État national. Je veux dire par absent, c'est pas bien sûr qu'il en fait partie, mais il est plutôt passif qu'actif, si j'en crois ton exposé. Ou bien est-ce qu'il faut corriger cette impression que j'ai retirée de ta présentation?
On m'a déjà fait ce reproche à la parution de mon livre.
Ah, c'est pas un reproche, c'est vraiment une question.
Oui, mais justement, dans le commentaire, c'était un reproche, parce que ça enlevait cette espèce de vision mythique et je dirais très populaire. Alors, je ne dis pas que les autres révolutions de 1848 ne sont pas un printemps des peuples. Je dirais, par rapport au cas suisse, ce qui est évident, c'est que c'est des cercles limités qui participent à cette élaboration d'un État-nation. Même si on regarde ces sociétés dont j'ai parlé, donc de tir, de champ, c'est quand même des milieux d'une bourgeoisie relativement aisée. Simplement, pour se déplacer à un tir fédéral, si on prend ce que coûte la mobilité à ce moment-là, c'est accessible à 2-3% de la population. Donc la mobilité de loisirs à la fin du 19e siècle, c'est accessible à 5% de la population. Donc, je dirais, même de ce point de vue, j'ai montré surtout au niveau économique. Alors là, oui, c'est vraiment des élites économiques et certaines élites économiques qui sont concernées, qui ont besoin de, de ce cadre national. D'autres n'en ont pas besoin. Mais je dirais, les enjeux sont tels, notamment la construction des chemins de fer, que ce moteur-là est puissant, en dépit, je dirais, d'un nombre relativement peu important de personnes directement concernées dans leurs intérêts. Après, justement, au niveau de la bourgeoisie et, par exemple, des radicaux de l'époque, je dirais, il n'y a pas de parti politique à l'époque. C'est des groupes. C'est des groupes qui se retrouvent dans des associations, l'association nationale qui regroupe les principaux radicaux des différents cantons. Ils discutent, voilà, mais il n'y a aucune structure. Et je dirais qu'il n'y a pas 100 000 membres. C'est vraiment quelques dizaines de personnes qui se retrouvent et qui discutent. Après, évidemment, que dans la mise en œuvre de la guerre civile, on a un élargissement de ces questions à travers les journaux, à travers différents aspects de l'opinion publique. On a besoin de gens pour aller se battre, il faut mobiliser, convaincre la population. Et là, alors, on a toute une série... je dirais, de vecteurs. On a des poètes qui font qui rédigent des poèmes anti-jésuites. Donc, c'est vraiment ensuite un discours qui se diffuse, évidemment. Et la guerre, elle ne se fait pas avec des élites. Il y a effectivement des gens qui sont mobilisés, engagés. Donc on ne peut pas non plus dire que c'est uniquement les élites qui font cet état, mais je dirais par rapport aux impulsions qui sont données, pour moi c'est clairement, je dirais, des milieux limités de la population.
Encore deux questions.
Oui, David et Gérard Bras. Non.
Oui. Bon, qui a une question brûlante, absolument brûlante? Parce que moi, je peux la poser au bar ou en mangeant.
Non, qui sont brûlantes.
Oui, elle n'est pas brûlante. Elle est tiède. Non, c'est pas vrai. 1848, pour la Suisse, effectivement, la constitution d'un État fédéral. Puisque avant, c'était une confédération d'États avec des capitales tournantes. En 1848, Berne devient de fait, puisque ce n'est pas inscrit dans la Constitution, la capitale de la Suisse. Donc voilà, on a constitué un État fédéral, mais c'est une constitution de micros, enfin c'est une fédération de micros-États. En cela, avec des langues différentes, avec des religions différentes. Alors, on a constitué un État, mais est-ce qu'on a constitué une nation en fédérant comme ça des micro-États? Si on prend l'exemple de l'Union européenne, on a fait, enfin, ils, parce qu'on n'en est pas, ils ont fait ou tenté de faire la même chose, une monnaie commune, des frontières communes, une constitution commune, même qui a un petit peu capoté, mais jamais personne pourra, enfin, actuellement, dira que l'Europe est une nation, qu'il y a même une identité nationale européenne, ou même une identité européenne, en tout cas celle-ci, elle est, c'est une notion qui est problématique. Donc voilà ma question, est-ce que dans le cas de la Suisse, on peut parler d'une nation ou, pour reprendre ce qu'a dit Hugues, plutôt une fédération d'États qui avait des intérêts communs à se fédérer et à faire corps, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur, en s'unifiant?
Alors de mon point de vue, à partir de 1848, on peut clairement dire qu'il y a une nation. Il y a un cadre politique commun, notamment ce qui me paraît très important, c'est ce droit d'établissement, c'est-à-dire que voilà, les gens peuvent circuler et s'établir dans les différents cantons. Et on dirait on a ce droit de vote qui est élargi à l'ensemble de la population. Pour moi, après, ça dépend finalement la définition de la nation. Quels critères on privilégie? Si on privilégie uniquement la dimension culturelle, c'est-à-dire la conscience d'avoir une unité au sein de la population. Là, on peut dire qu'en 1848, c'est toujours embryonnaire. Et ça va justement se consolider par la suite, et en particulier, je dirais, à la fin du 19e siècle, pour moi, c'est vraiment un moment important. Alors, il y a la création du premier août, et il y a une série d'autres éléments identitaires qui sont mis en place. Mais surtout, c'est aussi les anciens ennemis qui se réconcilient, c'est-à-dire, c'est les conservateurs qui, cette fois, s'identifient à l'État fédéral, notamment avec l'entrée symbolique du premier catholique conservateur au Conseil fédéral. Donc, dès ce moment-là, je dirais, il n'y a plus cette partie de la population qui se considère en dehors de la nation. Et on a vraiment un processus de consolidation qui, notamment après, à travers les deux guerres mondiales, se concrétise. Mais pour moi, à partir de 1948, on a deux éléments essentiels. On a un territoire qui est, je dirais, qui va plus trop évoluer ou pas plus évoluer du tout depuis 1815. 1848, c'est un véritable État qui a une série de compétences très importantes. Avec ce droit d'établissement, là, pour moi, il y a une nation qui est en place, qui n'a pas encore, je dirais, vraiment conscience, ou pour une partie de la population qui refuse même, de certaine manière, de s'identifier à cet État, mais à la fin du 19e siècle, à quelques exceptions près, on a quand même la plupart des gens qui se considèrent suisses. Voilà, pour répondre à votre question, après, c'est toujours, finalement, à quoi sur quel élément de la définition on met le plus d'importance. À la limite, on peut dire que la Suisse n'existe toujours pas en tant que nation, comme on l'a vu. Finalement, si vous interrogez les gens actuellement, vous sentez plus vaudois ou suisse? Je ne sais pas. Ce serait intéressant d'avoir un sondage. C'est pas sûr que une majorité de Suisses actuellement privilégie l'identité à la Confédération vis-à-vis du canton. Donc, est-ce que la Suisse en tant que nation existe aujourd'hui? C'est un peu provocateur, mais...
Je vais s'y inquiéter pas.
Merci. Je voudrais reprendre la question de Hugues Poletier, mais sous un autre angle, sous l'angle de ce que le 19e appelait la question sociale. Or, il me semble que la question sociale, je mets des guillemets sans développer, la question sociale est corrélée à la question nationale. La nationalité, au bout du compte, c'est ce qui va donner des droits sociaux. Et quand on prend le problème de la résurgence de la xénophobie aujourd'hui, la question qui est posée par la xénophobie, que ce soit en France ou que ce soit en Suisse, c'est ces immigrés, ils viennent nous bouffer notre déficit de sécurité sociale, ils viennent nous bouffer nos droits, ils viennent prendre gratuitement ce que nous, on s'est élaboré en le payant. Donc, c'est pour ça que je reviens sur cette question. Dans quelle mesure la question sociale, même au sein des élites, vient comme un élément ou ne vient pas comme un élément? Ma question est vraiment posée d'un point de vue d'ignorance. Sur la France, j'ai deux, trois idées. Sur la Suisse, je n'en ai aucune. Vient comme un élément ou ne vient pas comme un élément de la constitution de la nation?
Votre affirmation, la nation donne des droits.
La nationalité.
La nationalité, d'accord.
Peut-être pendant que tu réfléchis, juste un élément de différence avec la France, mais aussi avec l'Italie,
sur les papiers d'identité français, italien, allemand, vous avez le lieu de naissance. En Suisse, on a le lieu d'origine. Parfois un village dans lequel on n'a jamais été, enfin, moi oui, parce que je m'y suis naturalisé, donc j'y ai habité, mais qui est à l'origine effectivement quelque chose qui a été mis en place parce qu'au cas ultime de recours à une assistance sociale, on était renvoyé dans ces lieux d'origine. Donc on avait quelque part bloqué l'assistance sociale de l'époque au lieu dont on était originaire. Et jusqu'encore aux années 20, on pouvait expulser un Suisse d'un canton où il résidait et duquel il n'était pas originaire, s'il commettait des délits notamment. Donc c'est quelque chose aussi de relativement récent, dont on a encore les traces. Évidemment, maintenant, ce lieu d'origine ne sert plus à grand-chose. Enfin, c'est anecdotique, mais il est la trace d'un... Non, c'est toujours...
Il y a un peu, je vous dirai après.
OK.
Cédric, dernier commentaire.
Par rapport à la question sociale, de ce point de vue, je dirais que le moment qui est peut-être plus important, c'est la montée du mouvement ouvrier avec ses revendications et notamment une partie de ce mouvement ouvrier qui s'affiche internationaliste, qui remet en question en partie l'idée de la nation et qui revendique des droits sociaux à partir donc des années 1890-1990. Et c'est intéressant de voir qu'au sein même du mouvement ouvrier, on a une division entre un mouvement ouvrier plus nationaliste autour de la société du Grütli. C'est intéressant que la première association d'organisation des ouvriers en Suisse ait utilisé le terme Grütli. Donc, bon, c'était aussi pas simplement des artisans qui étaient dedans à l'époque, pas seulement des ouvriers en tant que tels. Et à partir donc des années 80-90, une aile de ce mouvement ouvrier qui s'internationalise et qui se revendique de l'international. Et là, on a un des moteurs d'un regroupement des forces nationales, donc du rapprochement des catholiques conservateurs avec les radicaux libéraux, pour former ce qu'on appelle le bloc bourgeois à la fin donc du 19e siècle, et ça se renforce après au début du 20e siècle. Voilà, par rapport à cette question de nationalité, je vais passer la main.
Bien. Merci, je suis navré. Il faut vraiment qu'on mette un terme à ce débat. Merci beaucoup encore une fois à Cédric Humeur et Gianni Avert. Merci à tous les participants.